France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris en chanson. Chers amis auditeurs, cette émission du dimanche de Pâques est particulière car elle a été préparée à chaud, si j'ose dire, dans la soirée du lundi 15 avril, alors que l'incendie de Notre-Dame n'était pas encore maîtrisé. Je venais d'assister en direct à ce spectacle inimaginable. Cela a commencé par une immense colonne de fumée jaunâtre qui surplombait Paris, droit dans le ciel clair, vers 7 heures du soir. Je rentrais de la maison de la radio par le bus 72 qui longe la Seine, et lorsque j'ai vu apparaître la cathédrale dans l'axe de sa façade occidentale, avec de grandes flammes entre ses deux tours, je n'arrivais pas à y croire. Plus j'avançais avec le bus, et plus le brasier augmentait. Plus la foule se massait sur les ponts, à la fois horrifiée et fascinée par le spectacle. Une fois arrivé sur le quai de l'hôtel de ville, j'ai pu voir ce qui restait du toit rougeoyant. Des bouts de charpente dont les poutres tombaient une à une. Et puis la flèche, dévorée par les flammes, dont on sentait qu'elle ne résisterait pas bien longtemps. Lorsque j'ai vu cette masse incandescente s'effondrer dans le brasier, avec un cri d'effroi de la foule, j'ai eu le cœur serré. Et lorsque j'ai vu des flammes remonter de plus belle, j'ai compris que les voûtes étaient percées. Et j'ai vraiment cru qu'on n'en arriverait pas à bout de cet incendie. Il était déjà plus de 8 heures, et la nuit commençait à tomber sur la ville. On sentait que désormais, la partie se jouait à l'intérieur de l'édifice, et que l'on ne pouvait plus rien voir de l'extérieur, à part les murs ras, privés de leur toit, et les pompiers qui s'affairaient avec leurs lances. Sur le chemin du retour, les larmes aux yeux, j'ai repensé à cette chanson créée par Suzy Solidor au début des années 50, « Les nuits de Notre-Dame ».
La cité va s'endormir, dans son île vont venir les oiseaux, les amoureux, les fantômes, les gens heureux. Sur les tours de Notre-Dame viennent dormir les oiseaux de Notre-Dame font leur nid près des vitraux. Quand descend le crépuscule, on voit des oiseaux tout blancs venir des grands océans rendre visite au vieux Paris. Dans les creux des vieilles pierres, les oiseaux rêvent d'amour, comme ceux qui, sans manière, s'aiment au pied des tours. Jeune fille de Paris, qui rêvait sur le parvis, regardez autour de vous, le passé est au rendez-vous. Dans les tours de Notre-Dame vibre le cœur de Paris, et tous les vitraux s'enflamment pour les Noëls à minuit. Sur les visages de pierre, la lune vient s'accrocher, sa clarté va se poser sur les amoureux du quartier. Et lorsque le jour se lève, les oiseaux quittent les tours, Paris a fini son rêve jusqu'à la fin du jour. Paris a fini son rêve jusqu'à la fin du jour.
Symbole chrétien, mais aussi historique et national, la cathédrale Notre-Dame de Paris a survécu depuis 850 ans à tous les changements de régime, à toutes les révolutions, à toutes les guerres. Grâce au courage de 400 pompiers intervenus lundi dernier, dont on connaît désormais mieux le mode d'action, nous savons qu'elle revivra. Mais si un jour elle venait réellement à disparaître, il resterait un monument symbolique, celui dressé par les poètes et les écrivains. Chateaubriand, Gérard de Nerval, Victor Hugo, bien sûr, et nous y reviendrons, Verlaine, Peggy, Claudel, ou encore l'historien Michelet. Même si on en a moins parlé depuis le drame de lundi dernier, il resterait également un bouquet de chansons qui parsèment le XXe siècle. La plus ancienne nous ramène à l'année 1914, juste avant la guerre, lorsque Gustave Goublier, alors auréolé du triomphe de chants puissants, agrestes et religieux, créés à la fin du XIXe siècle, comme le Credo du paysan, la Voix des chênes, l'Angélus de la mer, la Croix du chemin, Semaille et bien d'autres, composa cet hymne grandiose célébrant la cathédrale Notre-Dame sur un poème de Jacques Messy. Faute de gravure d'époque, en voici la version enregistrée en 1992 par le baryton Michel Danse de l'Opéra de Paris.
Sur l'immense parvis où rêve de l'histoire, dans sa robe de pierre, chante de la gloire, elle est fière comme autrefois, ouvrant large son temple où la foule s'entasse, elle est là pour bénir l'humanité qui passe, les vagabonds ou bien les rois. Sous le grand soleil d'or et par les nuits centrales, elle parle d'amour, d'espoir et de bonté.
Si je vous dis que le compositeur de cet hymne, Gustave Goublier, possède sa rue à Paris et son mausolée au cimetière du Père Lachaise, comme cela se pratiquait à l'époque, vous ne serez guère surpris. Mais revenons à la cathédrale Notre-Dame de Paris en tant qu'édifice. Menacée à plusieurs reprises au cours de son histoire, elle a été le théâtre de multiples transformations et restaurations, plus que nulle autre cathédrale de France, qui en compte pourtant de magnifiques, toutes différentes, chacune avec ses particularités. Ce furent autant de défis relevés par les bâtisseurs du Moyen-Âge, qui sans nos moyens modernes ont accompli des prouesses, comme le chantait à sa façon Anne Sylvestre sur son deuxième disque 45 tours sorti en 1960.
Bâtisseur de cathédrale, il y a tellement d'années, tu créais avec des étoiles des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger, et j'écoute sous tes voûtes l'écho de pas inchangés, mais toujours à tes côtés. Un gars à la tête un peu folle n'arrêtait pas de chanter en jouant sur sa mandole. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours.
La cathédrale Notre-Dame est inscrite dans l'histoire de Paris et du quotidien des Parisiens. Elle sert de décor familier au bonheur et aux petites tragédies des habitants. C'est le cas dans la chanson réaliste « Tout autour des tours de Notre-Dame », créée en 1920 par André Turcy. Il faut ensuite attendre le début des années 50 avec une sorte d'âge d'or de la chanson de Paris qui s'exportait par la voix d'interprètes remarquables. Maurice Chevalier, Charles Trenet, Jean Sablon, Jacqueline François, Patachou pour ne citer qu'eux, et bien sûr Édith Piaf. Parmi les nombreuses chansons sur Paris qu'elle a popularisées, il en fallait une sur Notre-Dame, et cet exercice de style a été très correctement écrit en 1952 par Eddy Marnay sur une musique de Marc Héral avec un rythme de valse très typique de cette époque.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qui en a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille. Au lieu de faire des ronds dans l'eau, tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je pourrais faire rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Il n'y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien, les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son vert de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule, s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame de Paris.
Au même moment, Lina Margy lance une autre valse populaire au pied des tours de Notre-Dame. Il s'agit d'un poème de Francis Carcot, mis en musique par le jeune Charles Dumont, qui arrivait de Toulouse à l'âge de 21 ans et a eu le bonheur d'être reçu très cordialement par l'homme de lettres qui lui a confié un de ses recueils afin qu'il puisse y choisir un poème à son goût. Cora Vauquer l'a également enregistré en 1953.
Je me souviens du bel été, des bateaux mouches sur le fleuve et de nos nuits de la cité. Hélas, qu'il vente, grêle ou pleuve, ma peine est toujours toute neuve. Elle chemine à mon côté. Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ne reviendras-tu donc jamais? Voici le charmant mois de mai.
Dans la même veine, on peut citer une chanson peu connue de la toute fin des années 50 intitulée « Les amoureux de Notre-Dame » et une autre à peine plus marquante, « La ballade de Notre-Dame » enregistrée en 1957 par la sculpturale Dany Doberson. Un tout autre registre à présent avec Léo Ferré qui en 1949 a chanté l'île Saint-Louis de façon très poétique en la comparant à un bateau qui avait envie de larguer ses amarres. L'année suivante, il a utilisé le symbole des cloches de Notre-Dame pour exprimer un anticléricalisme virulent hérité de la pension religieuse de son adolescence. Avec un sens de la contestation sociale déjà très affirmé, il souligne le décalage entre un Paris présenté comme plutôt douillet et la misère qui domine Aubervilliers. Léo Ferré chante donc les cloches de Notre-Dame à partir de 1950 à l'éphémère cabaret Le Trou, dirigé par son ami Francis Claude, rue Champollion, situé à quelques centaines de mètres à peine de la cathédrale. Cette chanson fait également partie du répertoire de Catherine Sauvage, la plus fidèle interprète de Ferré dès 1953, mais la voici la même année par son auteur.
Cloches de Notre-Dame à Paris, qui sonnait les glaces et les carillons, qui sonnait la joie et la peine. Cloche de Notre-Dame à Paris, vous êtes vieille comme le monde, vous êtes pauvre comme la Seine, vous êtes tendre comme le bronze. Cloche de Notre-Dame à Paris, cessez vos glaces et vos carillons et penchez-vous un peu du côté d'Aubervilliers ou des Lilas et chantez le bonheur de ceux qui n'en auront jamais. Cloche de Notre-Dame à Paris, qui sonnez chaque mort d'évêque, sonnez un jour, une nuit, au hasard, comme ça, toute seule. Ça mettra les gens en bas de leur lit douillet à Paris, et ça fera peut-être peur aux imbéciles.
Les cloches de Notre-Dame datent pour la plupart du XIXe siècle, mais le célèbre bourdon de Treston du Beffroi Sud, dont le fa dièse ne retentit que dans les grandes occasions, remonte lui à Louis XIV. Les chansons que j'ai pu recenser sur Notre-Dame proposent également un autre discours sur ces cloches, celui beaucoup plus musical et onirique imaginé par Jean-Roger Caussimon. Mis en musique par Jean-Pierre Moulin, ce blues de Notre-Dame est interprété en 1964 par Philippe Clay, véritable comédien de la chanson, avec de beaux arrangements de Jean-Pierre Mangeon.
Il a neigé hier soir sur la ville, il a neigé cette nuit sur Paris, et ce matin dans Saint-Louis en Lille, je me sens loin, bien loin de Saint-Louis. Saint-Louis du jazz où tous les dimanches on chante en chœur l'archange Gabriel, qui tôt ou tard d'un seul coup d'aile blanche met de l'île noire là-haut dans le ciel. Voilà ce que disent les cloches de Notre-Dame, qui sonnent, qui chantent pour moi, pour vous et pour tous. Mais que Dieu me pardonne et qu'il sauve mon âme, c'est presque aussi beau que le Saint-Louis Blues.
Tout comme les poètes, certaines chansons personnifient Notre-Dame, tel un témoin de toute l'histoire de Paris. Et c'est vrai qu'elles semblent vivantes. que l'on soit croyant et que l'on voit l'édifice comme une présence de la Sainte Vierge, ou non croyant et qu'on la considère comme habitée par le souvenir de toutes les grandes cérémonies, heureuses ou malheureuses de notre histoire. À ce sujet, l'auteur-compositeur québécois Raymond Lévesque, installé à Paris dans les années 50, bouscule quelque peu les habitudes de la chanson avec sa poésie ironique en 1957.
Notre-Dame, vieille dame de Paris, comme tu dois en savoir des choses, et la Seine, vieille reine, ton amie. Avec toi, jamais ne se repose, car lorsque sonne ton carillon, elle a peur que t'en dises trop long. Et inquiète, elle te guette sans répit. Notre-Dame, vieille dame de Paris, dans ton île joyeuse, comme tes pas tapageuses, les années sans se méfier, telles qu'elles se sont montrées, et tu les as surprises à faire des bêtises, à faire les 400 coups. Ah, s'il fallait savoir tout. Notre-Dame, vieille dame de Paris, si un jour tu te sens causeuse, que la Seine, vieille reine, ton amie, ce jour-là dormirait paresseuse. Je t'en prie, garde tes confidences, car ce n'est pas méchant le silence. Laisse-nous croire à la gloire du passé, comme si tout ça c'était vrai. Notre-Dame, vieille dame de Paris.
Mais il est temps à présent de plonger dans l'œuvre de Victor Hugo. Ce fameux roman historique, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, dont l'intrigue, prenant pour cadre la cathédrale et ses alentours, avec des personnages très typés, se déroule en 1482. Ses dimensions politiques, philosophiques et fantastiques en font un monument de la littérature française du XIXe siècle, qui a donné lieu à de multiples adaptations au cours des XIXe et XXe siècles. Côté cinéma, il s'agit d'abord de films muets réalisés en France par Alice Guy en 1905 et par Albert Capellani en 1911, puis aux États-Unis en 1923. En version parlante, les adaptations du roman de Victor Hugo commencent en France en 1931 avec Jean Epstein, puis en 1942 avec René Hervouin, et surtout en 1956 avec le film en couleur et en cinémascope réalisé par Jean Delannoy avec Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, Alain Cuny et Robert Hirsch dans les rôles principaux. La tragédienne de la chanson Damia, alors en fin de carrière, y incarne une chanteuse mendiante sur le parvis de la cathédrale et chante une complainte composée par Georges Auric sur des paroles de Jacques Prévert, également co-scénariste du film.
À Notre-Dame, venez tous voir la jeune femme qui meurt ce soir. C'est une chose affreuse. Ce que c'est que de nous, la pauvre malheureuse, venez accourir tous. vive aujourd'hui, morte demain, d'où Jésus tendez-lui la main.
Aux États-Unis, la première adaptation sonore pour le cinéma a été réalisée en 1939 par William Dieterl sous le titre Quasimodo. Puis il y a eu le téléfilm Le Bossu de Notre-Dame en 82 et enfin le film d'animation homonyme de Walt Disney en 1996. Côté scène, le roman Notre-Dame de Paris a donné lieu à des opéras, à des ballets, dont celui de Roland Petit en 1965, au spectacle de Robert Hossein en 1978 et enfin à deux comédies musicales. La première, composée par William Scheller sur des poèmes de Victor Hugo lui-même, sous le titre Quasimodo, était surtout destinée aux enfants. Ce grand spectacle, mêlant tours de chant et numéros de cirque, a été joué de façon éphémère sous un chapiteau géant installé à Paris, avenue Daumesnil, en novembre et décembre 1987, avec le funambule Antoine Rigaud dans le rôle de Quasimodo et Nicoletta dans celui d'Esmeralda.
Notre-Dame, que c'est beau, sur mon âme de corbeau, voudrais être clerc ou prêtre pour y mettre mon tombeau.
La seconde comédie musicale, c'est bien sûr celle de Luc Plamondon et Richard Cocciante, Notre-Dame de Paris, créée en 1998 au Palais des Congrès de Paris et dont le succès planétaire ne se dément plus depuis 20 ans. Adaptée en 9 langues et jouée dans plus de 20 pays, elle vient de fêter sa 5000e représentation. Le rôle-titre de Quasimodo, joué par le Québécois Garou, a durablement marqué les esprits.
Mes amis les gargouilles qui veillent sur toi, te protégeront de tous les imbéciles. Quand tu auras besoin d'un abri, tu n'auras qu'à venir demander asile. Notre-Dame de Paris, c'est ma maison, mon île. C'est ma ville, c'est ma vie, mon air, mon toit, mon lit. C'est ma chanson, mon cri, ma raison, ma folie. Ma passion, mon pays, ma prison, ma patrie.
Tes amis les gargouilles sont aussi mes amis. C'est elles qui me font rire jour quand je m'ennuie. Et toi tu la ressembles et tu me plais pour ça. Même si j'ai peur de toi toujours quand je te vois.
Dans ma maison à moi, il y fait toujours beau. L'hiver il fait moins froid, l'été il fait moins chaud. Tu viendras quand tu veux, quelle que soit la saison. Ma maison, si tu veux, ce sera ta maison.
Au fond, Notre-Dame, c'est un peu notre maison à tous. Tellement familière qu'on y prêtait souvent bien moins attention que les touristes. Et c'est parce qu'elle a risqué de disparaître qu'on réalise soudain combien on y tient. Alors, si l'on sait bien que toute perte de patrimoine est irrémédiable, il ne reste plus qu'à souhaiter que sa restauration, inscrite dans le temps long d'un chantier quasi permanent qui dure depuis 850 ans, soit la plus satisfaisante possible. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Valentin Bobinet à la technique, Max James à la réalisation, Antoine Villoz à la discothèque centrale de Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.